Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver pour cette dernière manche des séances de renforcement des capacités initiée par l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7. Aujourd'hui, nous allons discuter autour des techniques de conduite de poulets locaux pour une meilleure productivité. Cette thématique apparaît très importante, en tout cas pour la TVA du Pôle 7, pour une seule raison. Madame Agnès Mehoba nous l'énonce. Elle est la chef service formation opérationnelle à la TDA du Pôle 7.
Déjà, à partir de 2024, il y a une mesure pour limiter les importations de volailles. Et nous voulons montrer notre engagement à accompagner la volonté du chef de l'État. Et cette session de formation, c'est pour renforcer les capacités des acteurs de la volaille traditionnelle, afin qu'ils s'apprêtent à répondre à cet impératif qui est de limiter l'importation de la volaille, donc d'augmenter la production locale pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire.
À présent, nous allons nous entretenir avec Modeste Dayato. Il est éleveur de volailles, lui aussi, mais de surcroît, il est le président de l'Association nationale des agriculteurs du Bénin. Cher président, merci d'avoir accepté partager vos connaissances avec vos pairs éleveurs de volailles à la faveur de cette séance de renforcement de capacité. Nous allons ressasser l'essentiel de ce qui a été dit en salle pour nos auditeurs. Et pour commencer, dites-moi, quelle est la particularité de la volaille locale par rapport aux autres types de volailles?
Merci. La volaille locale, tout le monde reconnaît sa particularité. C'est déjà la tendreté de la viande. Mais quand on pense à cette volaille-là, elle est plus rustique, donc plus résistante aux maladies aviaires. Et sa particularité, c'est qu'elle a aussi une croissance moins rapide que les volailles modernes, notamment les poulets chers et les pondeuses.
Pouvez-vous nous citer de façon pêle-mêle les techniques de conduite de volailles locales que vous avez partagées avec les éleveurs?
Ces quelques journées de formation nous ont permis quand même d'aborder des thématiques qui sont chères aux éleveurs, notamment comment identifier un bon site d'élevage, comment construire son bâtiment, quelles sont les normes de construction de ces bâtiments-là. Quand bien même que ce sont des volailles locales, il faut quand même respecter un certain nombre de normes. Nous avons évoqué aussi les matériels qu'ils doivent utiliser, parce que ces matériels jouent aussi un rôle important dans les résultats qu'ils peuvent avoir à la fin de leur élevage. Nous avons parlé de la réception des poussins, qui est une étape importante, parce que un poussin mal démarré ne permet pas d'avoir à la fin des poulets en bonne forme, des poulets qui croient vite, qui permettent de rentabiliser l'investissement qui a été fait. Nous avons également parlé de la conduite des poussins. Donc, quand on les démarre, il faut bien les conduire du début jusqu'à la fin. Quels sont les réflexes que les éleveurs doivent avoir? Donc, nous sommes revenus sur ces réflexes-là. Nous avons également évoqué la question de la biosécurité, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des règles que doivent respecter les éleveurs pour empêcher les maladies de s'installer dans leur élevage ou de rester dans l'élevage. Ensuite, nous avons parlé de la prophylaxie sanitaire. Nous avons parlé de l'alimentation. Les différents stades physiologiques des animaux ont besoin des aliments spécifiques qui répondent à leurs besoins. Et naturellement, on ne peut pas parler de poulets locaux sans parler de la reproduction. Nous avons évoqué aussi la reproduction. Comment est-ce qu'on identifie de bons reproducteurs? Comment les garder? Quel est le sexe ratio? Combien de mâles pour tel nombre de femelles? Parce que ça aussi, c'est important. Quand on rate, on a souvent des œufs qui ne sont pas germés. Donc, ça joue sur la rentabilité de l'entreprise. Nous avons parlé de la gestion des maladies, la gestion économique d'une exploitation. Donc, nous les avons aidés avec des cas pratiques.
Nous allons y aller pas à pas. Le premier volet que vous avez évoqué concerne le choix de l'emplacement. Dites-moi, quels sont les critères qui définissent ce choix?
Merci. Ce n'est pas difficile. Il faut juste avoir quelques réflexes. Il faut que le lieu d'implantation d'une ferme puisse être accédé facilement. Il faut aussi l'accessibilité d'une source d'eau. Également, pendant la saison des pluies, il faut surtout essayer de voir si, parce que pendant la saison des pluies, l'endroit est accessible, est-ce que l'eau ne dérange pas. Donc ça, c'est important. Il faut également voir si le terrain qui veut abriter l'élevage n'est pas sur une pente importante. Donc, il faut un terrain relativement plat pour abriter l'élevage. Il faut aussi voir si dans les parages, dans les entourages, il y a déjà des éleveurs qui sont installés et qui font la même chose que vous voulez faire. S'ils font déjà la même chose, ce n'est pas bien de s'installer là parce que vous pouvez facilement partager les maladies qu'ils ont déjà dans leurs élevages. Et ça, aucun éleveur ne le souhaite. Je dirais pour finir qu'il faut également éviter de s'installer dans un milieu bruyant, donc où il y a assez de bruit, où il y a peut-être des grandes firmes qui se sont installées. Donc, un milieu où les animaux ne seront pas stressés.
L'habitat des volailles constitue un paramètre important à ne pas négliger. Quelles sont les normes recommandées à cet effet?
D'abord, on doit savoir orienter le bâtiment. Il suffit juste de savoir d'où est-ce que le soleil se lève et d'où est-ce que le soleil se couche. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche toujours à l'ouest. Il faut juste orienter les deux largeurs qui vont faire face à l'est et à l'ouest pour non seulement lutter contre ces intempéries, mais faciliter aussi la ventilation du bâtiment.
À propos des matériels et équipements, que recommandez-vous aux producteurs à utiliser?
L'essentiel est de connaître les principes, les normes. Après, on peut toujours s'arranger pour utiliser les matériaux locaux parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, nous n'avons pas encore de grands cheptels de volailles locales. Donc, c'est de petits cheptels, donc de volailles de petite taille. Il n'est pas question d'aller acheter d'équipements modernes, mais c'est de savoir qu'est-ce que je fais de l'équipement, quel est le rôle de l'équipement, comment est-ce que je peux l'utiliser, combien il en faut pour un certain nombre de sujets. C'est le plus important pour nous. Donc, quand nous connaissons ces principes-là, nous pouvons utiliser tout matériel qui se retrouve dans notre entourage. Par exemple, les bidons de 25 litres sont utilisés couramment pour servir des mangeoires et bien d'autres matériels aussi.
Parlons de la réception des poussins et de la conduite des poussins. Quelles sont les conditions dans lesquelles cela peut se faire?
Alors, la réception des poussins, c'est une étape fondamentale puisque c'est le début. Mais avant de prendre les poussins, il faut respecter ce qu'on appelle le principe de vide sanitaire. C'est un principe qui permet de rompre le cycle des agents pathogènes qui sont restés dans les bâtiments. Donc, on lave le bâtiment, on désinfecte le bâtiment, on laisse le bâtiment au repos pendant 21 à 30 jours. Ça permet de rompre le cycle de ces agents-là. Et donc, juste avant l'arrivée, il faut encore désinfecter le bâtiment pour s'assurer que s'il en restait, il restait encore quelques agents, cette dernière désinfection puisse les tuer et rendre le bâtiment vraiment sain pour accueillir les poussins qui sont fragiles. Et donc, juste après cette étape, il faut savoir comment est-ce qu'on démarre les poussins.
Dites-moi, Monsieur Dayato, quelles sont les règles de biosécurité à respecter dans une exploitation avicole?
Un élevage sans biosécurité, c'est un élevage qui est laissé ouvert à tout agent pathogène, parce que la biosécurité permet de lutter contre l'introduction de ces agents-là pathogènes. Et il faut juste être rigoureux sur certains principes.
Lesquels, par exemple?
Lesquels principes on peut citer déjà? Comment est-ce que le bâtiment est sécurisé? Est-ce que le bâtiment d'élevage est sujet à des visites intempestives. Dans un élevage qui se respecte, même si c'est un élevage de volailles locales, on ne peut pas accepter que tout le monde ait accès au bâtiment d'élevage. On ne peut pas accepter non plus que ceux qui ont habilité à rentrer dans le bâtiment puissent rentrer sans se désinfecter. Toutes les fois que vous sortez du bâtiment et que vous voulez rentrer à nouveau, vous avez l'obligation de vous désinfecter. Ce sont quelques règles chères quand même à nos yeux pour permettre aux éleveurs de régler un certain nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés, mais qui, par faute parfois de naïveté, ils tombent dans des situations qui ne leur permettent pas d'avancer dans l'élevage.
Alors, que peut-on comprendre par la prophylaxie sanitaire?
Au-delà des règles de biosécurité, si malgré tout la maladie survenait, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les précautions que je peux prendre? Comment est-ce que j'utilise les médicaments qu'on met à notre disposition pour non seulement lutter quand la maladie survienne, mais pour les prévenir également? Donc il y a un plan que nous appelons un plan de prophylaxie. C'est des produits qui existent déjà sur le marché, mais qui ne peuvent pas être utilisés anarchiquement. Donc il y a un plan que nous avons proposé, adapté aux poulets locaux, qui est quand même assez souple et qui permet de protéger suffisamment en combinaison avec les règles de biosécurité. Ça prévient les maladies. Si entre-temps il y a des traces des maladies qui étaient en incubation, le fait de respecter ce plan chaque mois permet déjà d'éliminer de ces agents pathogènes qui entre-temps se sont introduits dans le bâtiment. Il est recommandé que chaque éleveur quand même puisse avoir un vétérinaire qui l'accompagne dans tout ce qu'il fait, qui le conseille au quotidien. Parce que vous voyez, ces genres de formations, c'est par moment que nous les faisons. Et donc, le vétérinaire, c'est un agent assermenté de l'État qui s'y connaît et qui peut, en temps réel, conseiller l'éleveur. Donc, c'est quand même souhaitable que l'éleveur puisse avoir un agent qui puisse l'orienter dans ses choix, mais aussi intervenir par moment quand il le faut.
L'autre aspect important dans la production de la volaille est l'alimentation. Et aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs cherchent des alternatives pour nourrir leurs sujets à moindre coût. Avez-vous des solutions à leur proposer?
Merci. L'aliment constitue 70% des charges d'une exploitation avicole. Alors donc, c'est une question qui hante les éleveurs parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent dans l'alimentation. Le manioc que nous avons cité, qui fait le gari et autres, ces feuilles sont riches en protéines et peuvent servir de matière première riche en protéines dans la formulation de l'aliment.
Comment est-ce qu'on peut faire le choix idéal des reproducteurs pour une meilleure rentabilité?
Alors déjà, il faut voir sa conformation, il faut voir ses barbillons, sa crête aussi, ça doit être bien développé, rouge vif, doit avoir de bons gabarits. Nous avons attiré l'attention sur le fait qu'ils ne peuvent pas acheter ces sujets reproducteurs au marché ni dans des élevages non sécurisés. Quand on veut acheter des reproducteurs, on les achète dans des élevages où on est sûr que cet élevage-là est bien entretenu, bien suivi.
La gestion économique d'une exploitation avicole, vous en avez parlé tantôt. Qu'est-ce que cela implique?
Merci. C'est important de commencer par attirer l'attention de nos collègues éleveurs de volailles locales sur la gestion économique de l'exploitation. La plupart des éleveurs de volailles locales, même ceux qui ont une certaine taille importante, ne tiennent pas une comptabilité, ne tiennent pas des cahiers de suivi pour qu'on puisse savoir en temps réel s'il y a problème, comment est-ce que on peut retracer tout ce qui a été fait dans l'élevage. Si vous appelez un technicien qui vient, vous avez un problème, vous êtes incapable de lui montrer tout ce que vous avez fait par le passé, les derniers jours, là, qu'est-ce qui a été fait? Quels sont les traitements que vous avez déjà fait il y a un mois et autres? Ça lui permet de mieux faire son diagnostic et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aider l'animal qui est malade, pour prescrire ce qu'il faut. Mais il y a un autre aspect que nos éleveurs ne voient pas. Comment est-ce que je sais à combien je dois vendre mon produit? Non, mais on produit pour vendre, on produit pour se faire de l'argent. On produit pour rentabiliser. Donc, comment est-ce qu'on le sait? Si je n'arrive pas à écrire, si je n'arrive pas à enregistrer les données de l'élevage, c'est en enregistrant les données de l'élevage que je peux arriver à calculer le coût de production. On le fait en intégrant les coûts qui sont liés à cette production-là. Et à la fin, voir à combien nous est revenu le prix, l'œuf, l'unité d'œuf, et quelle est la marge possible qu'on peut mettre là-dessus pour vendre. Un exemple tout simple. Les charges qui sont liées à la production d'un œuf, il y a l'aliment qu'on donne aux reproducteurs, n'est-ce pas? Il y a l'amortissement même des reproducteurs. Il y a l'amortissement des du bâtiment, tout ce qu'on doit amortir. Il y a l'eau qu'on utilise. Donc ce sont des charges qui entrent dans la production. Tous ces intrants-là, on doit pouvoir les calculer pour savoir par jour, si on doit les quantifier, qu'est-ce qui rentre dans la production. Et c'est ça qui permet de savoir que l'œuf nous revient à tel prix. Et quelle est la marge qu'on peut se faire? Voilà, c'est à l'éleveur de voir quel est le prix sur le marché, quelle est la concurrence et qu'est-ce que moi je peux mettre sur mon produit pour être compétitif.
Quel est l'intérêt pour les éleveurs de retracer les données de leur élevage?
Si vous n'avez pas une gestion, même simplifiée, de votre exploitation, vous ne pouvez pas accéder aux services financiers. Ah oui. Parce que le financier ne vous donne pas de l'argent, ne vous octroie pas de crédit parce que vous êtes beau, parce que vous êtes venu lui raconter votre vie. Il vous demande des preuves. Et si vous n'avez pas ces documents-là, vous ne pouvez pas exhiber de preuves. Et ça, c'est important. C'est la seule chose qui peut convaincre l'agent, le financier, de SFD, de dire, ah oui, il y a un mois, vous avez fait tel chiffre d'affaires, vous avez fait telle dépense, ah, il y a trois mois. Donc, il suit un peu la rentabilité, vos chiffres, les chiffres d'affaires de votre entreprise. Et ça lui permet de dire, ah non, celui-ci, ce monsieur-là, je peux lui donner off-price le crédit dont il a besoin parce qu'il a la capacité de les rembourser.
Nous sommes en période de fête, de fin d'année, et vous savez que les volailles, notamment celles locales, sont très sollicitées. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des éleveurs qui vous écoutent?
Alors, par rapport à la fête de fin d'année, je voudrais juste inviter les éleveurs à faire de très bonnes affaires, parce que c'est la période où nous vendons beaucoup plus. C'est la période où on arrive à faire un peu de spéculation, il y a un peu de surenchère sur ces produits-là où la demande est relativement un peu plus forte que les autres périodes de l'année. Donc, c'est une période où tout éleveur est très concentré sur son activité et essaie de trouver les débouchés qui lui permettront de se tirer beaucoup d'argent, et qu'après les fêtes, nous, on se revoit pour fêter.
Modeste Dayato, merci. Voilà l'essentiel de ce qui a fait l'objet des séances de renforcement des capacités sur les techniques de conduite de poulets locaux pour une meilleure productivité. Chers auditeurs, nous avons également prévu pour vous un condensé de son intervention en langue locale fond que nous vous proposons d'écouter.
Ena ya hibo pe kwenu mi mu ekran yi pe kokro edo ni yenle lebo peron blo ta an konton yin fi mi ro yin pe kokro mi ton le fi mi ka mi ton le fi o ena fi le bo ali rai ena fi bo sina gba ena fi bo kan bo ya je ken bo ena yin soji bo e je ken bo igba hoho ran je ken a mi go se le jo o hoy mi na gbanu hoy me kanyano yi en ta yi do en e so mo pe kanilo o beneto na e ve o pelu mi no jodo bo yi no sali e yo mi ka mo e gbe ro kan mi to le so pe koko le e ge so mi ro ba te me yi bo gba ho yi ho mi ka ro gba yi o e do jile me dile côté pervio et là quand nous quand oui fait quoi dans ton sien et là bon genre et non genre là moi tu veux homme gagner mais quand vous êtes bien homme tu es tout bien à moi bon une tâche de l'air mais à moi du duka mais à moi sinuka mais à moi me dit Gerardo Samay ou endo asien ou bien blo asin temeni ya yoro pondwa mi kosine yo ni amo ni die kokule la nyemi doyi ba sin ba ko nko be ma to ta ba yi yo o kopo do ho me mi ga go sin fe o we zo mo kokure ro ku ta yin bo ma wuri na mi ze kokulo ho bo ya bi ho me o mi na blo sin de de be mi o de selecta be di lu mi na ta fo me me de bu wa ko mi ton mais tout mais des labio quoi mais on est là en ta fort si on met ouais tout là bien mais quand on met ouais tout bien coco coco mais dans les mains et nous taillons bon bien mais il y a bien tout qui dit quoi dire et il a fait pas le quoi mais on tout bien mais on a fait pas non on a collé un peu mais ouais bien des dire on a un dos et le frère des mains pour quand ta fort les mains bien t'es bien et Dieu me dit soit mais là soit nous c'est ça le côté benaje mi je fe re wa mi na on do bi o we e ya mi na on ya ma de se pete kanji tene o wa yo cho mi na ko ko vi le o mi na blo te meton do ko na de se pete be ya no mo nu ta li mi le o o mo 2 semaines be ya no mo o cho mi na yi ko ko mi to la bo la de mari bo na je ndu na ji bo na si mi be yi nu e ka yin ni mo don o koko ni tole ta wa yin lu koko ngu bi age koko ka hi de ya le mi gamblo bon e ne o mi mo lo ne lo da lu na le o do ai mi ton ji bra pa mi ton mi ka ton bon kon lo lu wa ki be ton e bo mi ya ka de le o mi a se tra mi a se ro po be he na dio so ja pe de o yin fe ma e ne e ga yin fe le bi sha ma ya e ne o na khia de ko ngo e na khia do ho be be na ku ben aso odo waneye mimo asinka miton resu asinka ya ni odo asin lo asinka resu mi hamina riza da doli bon aso mi ga riza mi na ho mi lu bi e de melo eso mo bi na riza bon aso e ne ono dio koki nu kale mi tole ni hamina ba la ho resu bo riza bon bo so bodo dandudunu nene don nele bio meo yamolo dudu o sin kwena de po dudu ka sin kwe de po kanyo riso mi mi na saba ki me bena pe kwe nu mi ni ko ku vi wa nya mi na na ni tente me teme o de la kiba meo mi kono blo a en fascination abawe mi no do ye ta wa abawe ka ko ko pe ton ta we yin goton mi na do nu ye nu ko ko le so mi do ayebo mo de vole no mi na ba asupo asipo e hena no po o ya do azin e na flasi le asio ruado sun le we to ja si do yi aso re su e le no so po mo ya ya ki me mi ho ko ko asupo asipo o be ai fo ndo no mo ya e o to e do mi na ho we mi do mi de so nya mi na ho we mi na ai fem du poji ba e de so mo vaccination e to mo respecter les bien et fait mener dit do mi na ho mi ka ho bo so a mi a so lu en quarantaine mi a so lu so mi mi tan bo pon e a pon ni je mo e e so te on e mi a o crete ton le ka de bon e so e ko kro ni wa mo do ya a wa e ton lu do ya mi a pon est ce que lu tin tin wa e le bien mi a pon we to mo lan zinu o ko ite mi ton le e ka de no we ma me lo asuo mi hemi azanu ko we asio ko ropo to mi ran zawo mo e be ko lu fifre lo ene do horia e ka ba zion o we ya ti mo kokoro e no fle ma kokoro e kokoro e zo fle nu mi ka ba mo la yawo e do asio mi no be won be lo papa glo tabi to to go yo ja su poton o ko ka o to to 20 30 ene ko pa le ni de ko ni mi ka ro de o san de san mi ran ba mo ino fle asi ele bon ya fe ase ka le teme teme mi be ase de me go mon les gars ça coco le bois coco bien longtemps bon bien les hôtels coco le vin dans les indi.
Merci à tous de nous avoir suivis. Ce sera tout non seulement pour cette thématique, mais également pour cette saison. Nous remercions infiniment nos 5 radios partenaires qui nous ont accompagnés pour la diffusion de cette série de thématiques. La TDA du Pôle 7 renouvelle une fois encore, en tout cas, son engagement à vous accompagner pour un développement agricole durable. Bien à vous.